Bonjour, nous sommes les élèves du collège Gérard Philippe de Froissy. Dans le cadre d'un atelier radio, nous avons travaillé sur l'interview de Régis Autière.
Régis Autière, bonjour. Vous êtes scénariste de bande dessinée. En quoi consiste le métier de scénariste ?
Alors, en bande dessinée, ça consiste tout simplement à expliquer, enfin, d'abord à inventer une histoire, puisque la bande dessinée, c'est un art narratif, donc on raconte quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le scénariste qui va l'imaginer en général. Et ensuite, ça consiste à expliquer au dessinateur ce qu'il doit dessiner. C'est-à-dire que je vais d'abord séquencer mon histoire, je vais la raconter scène par scène, et après, je vais la raconter case par case. Le scénario, c'est vraiment ça. C'est une description de chacune des cases qu'on va voir dans la bande dessinée. Et donc, je vais visualiser dans ma tête le dessin, et je vais essayer de le retranscrire avec des mots, en mettant les dialogues à côté. Donc, tout ce qu'on verra dans les bulles, je vais le rédiger. Et je vais envoyer ça au dessinateur. À partir de ça, il fera un storyboard, donc un dessin rapide, une esquisse, sur laquelle on va se mettre d'accord. On va regarder si tout fonctionne, s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Est-ce qu'il faut, par exemple, supprimer une case parce qu'elle ne sert à rien, ou en rajouter une, ou changer un angle de vue, changer le dialogue parfois. Et puis après, je passe le relais entièrement au dessinateur.
Comment êtes-vous devenu scénariste de bande dessinée ?
Presque par hasard, dans le sens où ça n'est pas une vocation, en fait. Quand j'avais votre âge, je n'avais aucune idée déjà de ce que c'était que le métier de scénariste, et je ne m'étais pas projeté dans ce métier. En fait, c'est venu petit à petit, c'est les aléas de la vie qui m'ont amené vers ce métier. D'une part parce que j'avais envie de raconter des histoires. Je me suis d'abord orienté vers le roman avant de me rendre compte que j'avais du mal à m'obliger à travailler tout seul, en tout cas. Et donc je me suis orienté vers la bande dessinée parce qu'en bande dessinée on travaille à plusieurs, on est au moins deux avec le, enfin au moins deux, on peut être auteur complet en bande dessinée. Et je trouve ça plus motivant de travailler à plusieurs, et en plus de ça, ça crée une forme d'obligation, ne serait-ce que morale, mais aussi économique, de travailler. C'est-à-dire que le travail du dessinateur va dépendre du mien. Donc je suis obligé de travailler si lui veut pouvoir continuer à avancer. Et en fait, ce qui m'a amené vers la bande dessinée, en plus de cette envie de raconter des histoires, ça a été aussi plusieurs paramètres. Le fait que quand je me suis installé sur Amiens, on a marché sur la bulle, qui est une association qui a créé le Festival d'Amiens, qui venait de se créer. Donc, je l'ai rejoint en tant qu'adhérent. Dans l'association pour laquelle je travaillais, j'écrivais aussi des articles sur la bande dessinée. Et donc, j'étais amené à interviewer les auteurs et à faire des chroniques de bande dessinée. Et donc, tout ça, petit à petit, m'a amené vers la bande dessinée.
Qu'avez-vous fait comme études ?
J'ai fait des études de philosophie et puis un petit peu d'histoire. Et après mes études de philosophie, j'ai fait un diplôme en ingénierie de la connaissance. Donc c'est tout ce qui est études des flux d'informations dans les grandes entreprises. Donc rien à voir avec la bande dessinée.
Comment choisissez-vous les dessinateurs qui dessinent vos histoires ?
En fait, je les laisse me choisir. C'est-à-dire que comme je suis arrivé à la bande dessinée parce que j'avais pris conscience que j'avais besoin de travailler avec quelqu'un pour pouvoir avancer, je veux que les dessinateurs avec lesquels je travaille ressentent ce même besoin. Et donc, ce qui se passe, c'est que soit un dessinateur me contacte, alors ça va être soit un dessinateur, soit un scénariste, soit un éditeur. Mais je préfère quand c'est le dessinateur, donc qui me contacte et qui me dit, voilà, j'ai envie de travailler avec toi. Est-ce que tu aurais une histoire à me proposer ? Et dans ce cas, je vais écrire une histoire pour le dessinateur. En fonction de deux choses principales, qui vont être les envies du dessinateur, que pour qu'il se sente bien impliqué, j'ai plutôt tendance à partir de ses envies. Est-ce qu'il a envie qu'on travaille sur une histoire policière ou sur une histoire de science-fiction, par exemple ? Est-ce qu'il a des envies de décor particulier ? Est-ce qu'il a des envies de personnages particuliers ou d'une époque particulière ? Et puis, la deuxième chose, c'est en fonction de ce que m'inspire le style du dessinateur, l'univers graphique qu'il a développé dans ses bandes dessinées précédentes. Et à partir de tout ça, donc ça va être mes deux principales sources de départ et d'inspiration, je vais écrire une histoire, donc d'abord sous la forme de synopsis que je vais lui présenter. Si ça lui plaît, on part là-dessus. Si ça ne lui plaît pas, je vais retravailler, soit je vais complètement changer d'histoire, soit je vais aménager mon histoire pour qu'elle lui plaise.
À quel âge vous commencez à écrire des BD ?
Assez tardivement, en fait. Je devais avoir presque 30 ans. Parce que comme je disais en préambule, en fait, le métier de scénariste, ça n'est pas un métier intuitif, contrairement à celui de dessinateur. Et donc, quand j'avais votre âge, je ne savais pas ce que c'était que le métier de scénariste. Donc, ça n'a pas été une vocation précoce. Et c'est venu petit à petit, Notamment parce que bah, je vous disais tout à l'heure que j'ai écrit des articles pour un magazine qui était à destination des collégiens, lycéens, étudiants. Et je m'occupais de la page de bande dessinée. Ça m'a amené à interviewer des auteurs de bande dessinée et à comprendre ce qu'était leur métier. C'est à partir de là où j'ai pu envisager moi-même ce métier. Donc oui, j'ai dû commencer, je devais avoir 29 ou 30 ans à écrire mes premiers scénarios.
Comment avez-vous découvert l'écriture ?
De façon générale ou l'écriture scénaristique ?
Générale.
En CP, quand on apprend à écrire. Et si on parle de l'intérêt pour l'écriture, en fait, c'est venu un peu plus tard, c'est venu en CM. J'avais un instituteur qui nous donnait comme travail à faire le soir, un mot, et il fallait placer ce mot dans une phrase. Donc la plupart du temps, avec les copains, chacun écrivait une phrase qui était relativement courte, qui permettait de mettre le mot dans la phrase. Et un jour, je me suis amusé à raconter une petite histoire, je devais m'ennuyer ce jour-là. Et donc j'ai fait une phrase très longue avec beaucoup de virgules, et cette phrase racontait une histoire, et ça m'avait beaucoup plu. Et après, en CM2, quand on commence à faire des rédactions, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu, parce que j'étais très rêveur, je passais beaucoup de temps à imaginer des histoires dans ma tête en cours. Et là, pour une fois, en fait, on me donnait l'occasion de coucher ces histoires sur papier et on me laissait tranquille pendant une heure ou deux, voilà, à imaginer les histoires que j'avais envie d'imaginer. Donc voilà, le premier plaisir d'écriture que j'ai ressenti, c'était à ce moment-là.
Savez-vous dessiner ?
Comme tout le monde, on sait tous dessiner. Après, on dessine plus ou moins bien en fonction du talent de chacun, et puis surtout en fonction de la pratique. Plus le dessin, c'est comme la musique, plus on pratique et mieux on va dessiner. J'aime bien dessiner, mais voilà, c'est vraiment plus du gribouillage, enfin du griffonnage. C'est-à-dire que j'aime pas suffisamment dessiner pour en faire mon métier. C'est aussi pour ça que je ne dessine pas mes propres bandes dessinées, parce que je trouverais très fastidieux, très laborieux de passer plusieurs heures par jour à devoir dessiner. Ce que j'aime dans le dessin, c'est vraiment le côté évasion, voir le crayon glisser sur le papier. Et donc, voilà, ouais, depuis que je fais de la bande dessinée, en fait, je dessine de moins en moins. Je dessinais beaucoup plus avant. Je faisais des portraits, je faisais un peu d'aquarelle. Mais alors, je sais pas si c'est le fait de travailler avec des dessinateurs qui sont beaucoup plus doués que moi dans ce domaine qui fait que je dessine beaucoup moins. Mais le fait est là.
Avez-vous des BD traduites dans d'autres langues ?
Oui, en fait, la plupart de mes bandes dessinées ont été traduites dans au moins une ou deux langues. Celles qui ont été le plus traduites à l'étranger, je pense que ça a été Abélard, le dernier envol. Le dernier envol, c'est qu'il a été traduit au Japon, aux États-Unis, un peu partout en Europe, en Russie aussi, il me semble. Abélard a eu beaucoup de traductions aussi, notamment aux États-Unis, en Croatie, en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, etc.
Comment vous viennent les idées de vos histoires ?
Alors, c'est très variable. Moi, essentiellement, en fait, elles viennent de mon imagination. L'imagination, c'est quelque chose qui se nourrit. Et donc, ça vient pour une grande part de toutes les lectures que j'ai pu faire. Parce que j'ai toujours beaucoup lu de bandes dessinées, de romans. J'ai toujours beaucoup regardé la télévision. Je suis beaucoup allé au cinéma. Je suis assez observateur, donc je regarde beaucoup ce qui se passe autour de moi, j'écoute les histoires qu'on me raconte. Et tout ça, ça nourrit mon imagination. Et quand je me lance dans un projet avec un dessinateur, donc on part sur un thème. Alors, le thème, ça peut être juste une époque, par exemple, ou une période de l'histoire, comme la Révolution française. Et donc, je vais aller chercher dans mes souvenirs, en fait, tout ce que ça m'évoque. Donc, ça peut être des souvenirs d'école, par exemple, si la Révolution, voilà, ce que je sais de la Révolution française que j'ai appris à l'école. Ça va être des souvenirs de livres que j'ai lus. Alors, soit des livres d'histoire, mais aussi beaucoup de romans, de bandes dessinées, parfois des livres fantastiques. Et puis après, je vais aller puiser dans d'autres sources qui n'ont rien à voir avec le thème envisagé. Parce que souvent, c'est le mélange, en fait, qui va être intéressant. C'est-à-dire, si on mélange, par exemple, la Révolution française avec une histoire de zombies. Et le mélange des deux, en fait, ça peut vous donner une histoire un peu originale. Et donc, j'essaye de mélanger plein de sources comme ça d'inspiration différentes pour trouver la façon d'écrire ma propre histoire.
Quelle est votre prochaine sortie ?
Alors, la prochaine sortie, ça sera le tome 2 de Révolutionnaire, donc une histoire précisément qui se passe pendant la Révolution française, avec des enfants de votre âge à peu près. Et elle est en avant-première sur le Festival d'Amiens. Et celle d'après, ça sera Le Clan de la Rivière Sauvage, donc le tome 2, là aussi, et qui sortira mi-juin à peu près.
Avez-vous la pression à la sortie d'un nouveau livre ?
Non, objectivement non. J'avais surtout de l'excitation à la sortie de mes tout premiers bouquins, parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau. On a beaucoup d'attentes, on y croit beaucoup. Après, j'ai dû en faire à peu près 80 qui ont été publiés. Donc voilà, l'excitation s'est un peu émoussée au fil des ans et au fil des ouvrages. Mais il y a toujours quand même une forme de curiosité, surtout par rapport en fait au retour des lecteurs. On travaille tout seul dans notre coin pendant un an, grosso modo, pour faire une bande dessinée avec le dessinateur. Et on a envie de voir si le livre plaît, s'il trouve son public, s'il va réussir à toucher des gens, à les émouvoir, à les faire rire, pleurer, etc. Et donc les premières semaines de sortie, les deux, trois premières semaines de sortie, je vais être assez à l'affût des critiques qui vont sortir, soit en magazine, soit sur Internet, etc.
Quelle est votre BD la plus vendue ?
La plus vendue, ça va être La Guerre des Lulus maintenant. Le tome 1 de La Guerre des Lulus qui s'est vendu en France, sur le marché francophone, à, je pense à 120, 130 000 exemplaires, peut-être un peu plus, toutes éditions confondues, puisqu'il y a eu une édition France Loisirs, par exemple. Il y a eu des éditions spéciales qui ont été faites en Belgique aussi, et par la Voix du Nord en France. Donc je crois qu'on est entre 120 et 140 000 exemplaires vendus. Et puis après, les ventes à l'étranger, puisque ça a été traduit en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas. Mais là, je n'ai aucun retour sur ces chiffres.
Vous habitez depuis 1995 à Amiens. Participez-vous au Festival de la BD d'Amiens ?
Alors oui, j'ai d'abord participé en tant qu'adhérent de l'association. Donc voilà, j'ai participé au montage des expositions, des choses comme ça. J'y ai participé après en tant qu'administrateur, c'était aux alentours de l'année 2000-2001, je crois, pendant deux éditions du festival. Et puis, depuis 2004 ou 2003, je ne sais plus, ça va être 2004, j'y participe en tant qu'auteur de bande dessinée. Et donc là, j'y serai encore le premier week-end de juin et le tout dernier, notamment pour représenter les spectaculaires, puisqu'il y a eu une exposition qui est consacrée à cette série à la médiathèque Louis Aragon d'Amiens. La Guerre des Lulus, puisqu'il y a une exposition qui est consacrée à l'adaptation des bandes dessinées en film. Et voilà, la Guerre des Lulus ayant connu une adaptation, il y aura un gros focus sur cette série-là. Et puis Révolutionnaire, puisque voilà, je fais une table ronde avec le dessinateur de Révolutionnaire le dernier week-end de juin.
Bienvenue à Manoncourt, Ludwig.
Lucas.
Lucien. Luigi.
Et Ludwig.
Des frères.
Les Lulus.
On est en guerre.
Mais non, on se dispute.
Mais pas vous, le monde.
Tenez-moi, les gars. Il m'oublie tout le temps.
Vous avez écrit la BD La Guerre des Lulus, adaptée au cinéma en 2022. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de la série La Guerre des Lulus ?
C'est l'histoire d'un groupe d'enfants. Alors au départ, ce sont quatre garçons, quatre jeunes orphelins, qui sont élevés à l'abbaye de Valencourt, donc une abbaye qui a été transformée en orphelinat religieux. Et le petit village de Valencourt, qui est dans l'Aisne, tout près de la frontière belge, va être évacué par l'armée française, parce qu'on est au début de la guerre. L'armée allemande arrive par la Belgique, et l'armée française évacue les villages frontaliers pour éviter que des civils se retrouvent dans la zone de combat. Seulement, le problème, c'est que quatre des enfants ont fait le mur et sont en train de se construire une cabane dans la forêt. Et ce qui fait comme c'est un peu la panique lors de l'évacuation, personne ne se rend compte qu'il manque des enfants, voilà, toute l'abbaye est évacuée, et c'est un peu plus tard qu'on se rend compte de leur absence, et un peu plus tard et un peu trop tard. Les soldats allemands vont arriver, et les Lulus, puisque ces quatre garçons sont surnommés les Lulus, parce qu'ils ont tous un prénom qui commence par Lu, vont se retrouver dans la zone envahie par l'armée allemande. Rapidement, ils vont être rejoints par une petite réfugiée belge qui porte un prénom et qui commence aussi par Lu, puisqu'elle s'appelle Luce. Et La Guerre des Lulus raconte l'histoire de ces cinq enfants et aussi l'histoire de la guerre de 14 vue au travers de leurs regards et au travers de leurs aventures.
Qui a eu l'idée d'adapter la BD en film ?
Alors ça, c'est une volonté des producteurs du Lézard, qui ont découvert la bande dessinée en achetant les droits d'une autre bande dessinée que j'avais faite, qui s'appelle De briques et de sang, qui se passe au Familistère de Guise, et qui est une bande dessinée qui est aussi éditée chez Casterman, donc le même éditeur que La Guerre des Lulus. Et c'est chez Casterman qu'on leur a dit, mais si De briques et de sang vous intéresse, lisez La Guerre des Lulus. Ça se passe aussi dans la région, il y a un épisode qui se passe au Familistère, c'est écrit par le même scénariste, c'est colorisé par le dessinateur de De briques et de sang. Donc ils ont lu la bande dessinée, rapidement ils se sont dit, oui, il y a quelque chose à en faire. Ils ont d'abord cherché un réalisateur, ils l'ont trouvé en la personne de Yann Samuel, ils ont réussi à le convaincre, en lui faisant lire les bandes dessinées, tout simplement. Juste après les avoir lues, en fait, Yann a été convaincu qu'il fallait qu'il fasse un film avec cette bande dessinée, et c'est comme ça que l'aventure a démarré.
Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir votre BD transformé en film ?
Ça fait très plaisir, parce que c'est très flatteur, en fait, de voir déjà qu'on s'intéresse à votre œuvre. Donc le jour où les producteurs ont acheté les droits, voilà, j'étais vraiment très content. Un peu sur la réserve aussi, parce que je sais que le milieu du cinéma, de l'audiovisuel, c'est un milieu qui est plein de promesses, mais en réalité, il y a relativement peu de projets qui aboutissent, malgré la volonté très forte des producteurs, des réalisateurs, etc. Mais il y a tellement de moyens en jeu, tellement d'argent à trouver, voilà, que même avec la meilleure volonté du monde, c'est parfois difficile de mener un projet jusqu'au bout, beaucoup plus difficile qu'en bande dessinée. Et donc, voilà, j'étais hyper heureux et en même temps, je me disais, voilà, bon, ils ont acheté les droits, mais il y a seulement peut-être 5% de chance ou 1% de chance même que le projet aille au bout et que le film voit réellement le jour. Donc, je suis resté sur la réserve comme ça assez longtemps, parce qu'il a fallu 3-4 ans pour que le film se monte. Et c'est uniquement quand il y a un distributeur qui a été trouvé, alors d'abord un réalisateur qui a été trouvé, et puis un distributeur. Là, distributeur, je me suis dit, ah, ça sent bon, parce que là, ça veut dire qu'il va y avoir de l'argent supplémentaire qui va être mis, le film va être diffusé en salle. Et puis après, quand on a vu le casting, on s'est dit, ah oui, là, ça devient vraiment bon. Et puis quand le tournage a été lancé, là, on s'est dit, ah, le film va très, très certainement voir le jour, parce qu'une fois qu'on a lancé un tournage, il y a peu de chances que le film ne se fasse pas, même si ça peut arriver quand même.
Y a-t-il les mêmes personnages dans la BD et dans le film ?
Alors oui et non. Oui, les personnages principaux sont là. Donc les personnages principaux, ce sont les 5 Lulus. Donc les 4 garçons et la petite fille, on va retrouver l'abbé, on va retrouver l'instituteur dans le film aussi. Le tirailleur sénégalais, lui, apparaît dans la bande dessinée, mais dans une histoire à part, en fait, dans une histoire de 16 planches qui s'appelle La nuit du tirailleur, qui est une histoire courte pendant laquelle les Lulus, au cours d'une nuit, tombent sur deux soldats français qui se sont évadés d'un camp de prisonniers. Et sur ces deux prisonniers, il y a un tirailleur sénégalais. Et donc, il va raconter son histoire au Lulu. Et ça, c'est une histoire qui est parue dans un magazine. Donc, il n'est pas dans les albums. Sinon, il y a des personnages qui ont été ajoutés. Il y a celui de la sorcière Louison, interprété par Isabelle Carré. Ça, c'est un personnage qui a été ajouté par Yann Samuel. Le personnage aussi de la doctoresse ou infirmière en chef dans le Familistère, ça aussi, c'est un personnage qui a été ajouté par Yann Samuel. Et puis, il y a des personnages qu'il y a dans la bande dessinée et qui n'apparaissent pas dans le film. Voilà. C'est le jeu des interprétations ou des adaptations de façon générale. C'est qu'on reprend une histoire, mais en la transformant, d'une part pour l'adapter au médium, parce que voilà, la bande dessinée a ses forces et ses faiblesses, le cinéma aussi. Et donc le mieux, c'est de tenir compte des forces de chaque média. Et puis, pour certaines raisons, notamment parce que pour faire un film, pour le financement notamment, on a besoin d'avoir un film qui va attirer du monde en salle. Et pour ça, on a besoin d'acteurs que les gens connaissent, ils auront envie d'aller voir dans les salles de cinéma. Et donc, pour les attirer, ça, il faut leur offrir des rôles qui sont un peu plus conséquents qu'un passage rapide étoffer certains rôles.
Avez-vous participé au casting du film ?
Non. On nous a envoyé les photos des acteurs. Les acteurs adultes nous ont dit, au fur et à mesure, il y a François Damiens qui a accepté le rôle de l'abbé, il y a Alexis qui a accepté le rôle de l'instituteur, etc. Donc ça, c'était un casting rapide, en fait, puisqu'il suffisait de contacter. Enfin, quand Yann, le réalisateur, avait pour un rôle précis un acteur en tête, il le contactait, il l'appelait, ou il appelait son agent, et rapidement, tous les 15 jours, il avait la réponse. Pour le casting enfant, ça a été beaucoup plus long. Ça a duré au moins 6 mois. Il y a 6000 enfants qui ont candidaté pour les 6 rôles. Donc les 5 Lulus plus Octave, qui est le grand ennemi des Lulus. Et donc, ça a été un casting à plusieurs tours avec des rencontres qui ont été organisées il y a eu deux castings physiques à Paris, un à Bruxelles, un à Amiens, un à Lille. puis après, ce qu'on appelle les callbacks, les enfants qui ont été retenus repassent devant un réalisateur qui les fait jouer plusieurs scénettes, etc., jusqu'à ce qu'ils trouvent les acteurs qui conviennent au rôle. Donc, on a été informé au fur et à mesure de ces castings, mais on n'a pas participé à proprement parler.
Avez-vous participé au tournage ?
Non plus. On m'a envoyé, avant le tournage, les différentes versions du scénario. Donc, j'ai donné mon avis, des conseils éventuels, des remarques dessus, mais il n'y avait aucune obligation déjà d'en tenir compte pour les réalisateurs. Et le tournage, on nous a invités à y assister, et donc on y est allé. Alors, au départ, je me disais, je vais passer une fois, voir ce que c'est qu'un tournage, ce que c'est qu'un plateau de tournage. Et en fait, ça nous a tellement plu avec le dessinateur que moi, j'ai dû y aller 7-8 fois, et puis le dessinateur y allait une dizaine de fois. Parce qu'on avait la chance que le tournage, en plus, se passe dans la région. Donc, c'était assez facile d'accès pour nous. On pouvait y aller sur la journée et revenir le soir chez nous. Et j'ai eu envie de découvrir tous les décors du film. Et donc, comme ça a été tourné au moins sur 7 ou 8 sites différents, j'ai vu à peu près tous les décors. Le seul plateau sur lequel je ne suis pas allé, c'est celui d'Arras. Il y a eu une journée de tournage à Arras. Et là, je n'y suis pas allé, mais sinon, je suis allé au Famister de Guy, je suis allé à Saint-Quentin dans le studio qu'ils avaient créé, je suis allé à Ors, à Sissonne pour le champ de bataille. Donc Ors, c'était là où a été reconstitué le village de Valencourt, l'abbaye de Saint-Michel, où était l'abbaye des Lulus, le village de Tertry, où a été construit la chaumière de la sorcière, la cabane des Lulus, le cimetière. Donc tout ça, c'est des sites qu'on a visités pendant le tournage.
Avez-vous joué dans le film ?
Non, par contre, dans le film, il y a mon fils qui apparaît une demi-seconde, mon père qu'on aperçoit de dos en arrière-plan dans une scène du Familistère, l'une de mes nièces aussi qui apparaît fugitivement à l'écran, dans un coin de l'écran dans la scène du Familistère, deux de mes neveux qui sont sur les séquences à l'abbaye, notamment la séquence de rugby et les... L'un apparaît dans la salle de classe. Donc, mais voilà, c'est de la figuration, sachant qu'il y avait 900 figurants à peu près, je crois, sur le film.
Pourquoi avez-vous choisi cette fin de film ?
Alors, c'est Yann Samuel qui a choisi la fin de film, mais en fait, cette fin de film correspond à la fin du tome 3 de la bande dessinée, puisque le film, c'est l'adaptation des trois premiers tomes de la bande dessinée. On retrouve une partie du tome 6, puisque le tome 6 revient sur l'avant-guerre, enfin la façon dont les Lulus sont rencontrés, etc., et leur conflit avec la bande à Octave. Mais la fin du film correspond très exactement à la fin du tome 3. Alors c'est même un petit peu plus loin, c'est-à-dire que à la fin du tome 3 de la guerre des Lulus, donc les Lulus prennent un train, ils sont persuadés que le train va les emmener en Suisse, et le lecteur, lui, comprend qu'en fait le train ne part pas en Suisse, mais il part en Allemagne, parce que sur le quai de la gare, il y a une femme qui arrive avec son enfant, des valises, et qui demande au chef de gare si c'est bien le train qui vient de partir était bien celui pour la Suisse, et lui dit non, vous inquiétez pas, celui-là est parti pour l'Allemagne. Donc voilà, le lecteur sait que les Lulus partent en Allemagne. Mais l'ouverture de la porte du wagon, une fois que les Lulus sont arrivés à Berlin, en fait, ça, c'est le tout début de la perspective Woody. C'est les premières pages de la perspective Woody.
Y aura-t-il une suite au film La guerre des Lulus ?
Alors ça va dépendre en fait du succès du film en VOD et en DVD. Là, il vient de sortir, là, je crois que c'était la semaine dernière. Il est sorti en DVD et il est en streaming sur les plateformes, enfin OCS, on doit pouvoir l'avoir via Amazon aussi. Et donc ça va dépendre en fait du succès sur ces plateformes-là, parce que voilà, pour faire le 2, il faut que le premier soit déjà rentable. Et la fréquentation en salle, donc est à peu près de 400 000 spectateurs, n'est pas suffisante pour rentabiliser un film comme ça. Donc il faut qu'il trouve sa rentabilité sur les chaînes de télé maintenant pour qu'on puisse lancer le 2.
Aimeriez-vous écrire des scénarios de films ?
Oui, pour l'expérience, parce que j'aime bien tenter différentes choses. Après, je n'achèterai pas en fait mon métier de scénariste de bande dessinée pour devenir scénariste de cinéma. Parce que j'aime trop ce métier, parce qu'on a énormément de liberté, beaucoup plus que j'en aurais dans le cinéma. Parce qu'en bande dessinée, on est deux, en fait, le scénariste et le dessinateur, à avoir la mainmise sur toute la partie création. Dans un film, en fait, ce n'est pas le cas. Le scénariste, en fait, c'est l'une des chevilles ouvrières du film, mais il y en a plein. Et le réalisateur aura toujours le dessus sur l'écriture du scénario, s'il veut remanier des choses, les acteurs aussi vont apporter leur grain de sel, les producteurs aussi peuvent annuler des scènes qui étaient prévues dans le scénario parce qu'elles vont coûter trop cher, par exemple. En bande dessinée, on n'a pas ça. Si on a envie de faire une scène, on fait la scène. On n'est que deux à décider. Il n'y a pas 36 000 personnes qui vont nous dire ça vous pouvez faire, ça vous pouvez pas faire. Donc voilà. Mais ça m'intéresserait comme ça d'écrire le scénario d'un film.
Dernière question. Pouvez-vous nous donner un conseil lecture, une BD qui vous a marqué récemment?
Alors récemment, qu'est-ce que j'ai lu récemment? Il y a la Bibliomule de Cordoue qui m'a beaucoup plu, qui est une bande dessinée qui raconte comment un escroc et deux bibliothécaires tentent de sauver des livres de la bibliothèque de Cordoue qui sont voués à l'autodafé. C'est un récit qui se passe, je crois que c'est au 16e, mais j'ai peur de dire des bêtises. C'est un récit qui est à la fois amusant, intéressant, instructif, donc tout ce que j'aime.
Merci Régis Autière d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir écouté notre émission. Retrouvez-la en réécoute sur www.graphite.net.